foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 19 février 2020. Bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Qu'est-ce qu'on demande à ces spécialistes? C'est surtout de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui nous submergent parfois. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Je vous les présente, Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de la branche canadienne de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour.
Participe à cette table ronde, Suzanne Noisel, ex-directrice générale de l'Entraide missionnaire et militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour, Suzanne.
Bonjour, François.
Enfin, Foi et Turbulence accueille aussi cette semaine Frédéric Barriot, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour, Frédéric.
Bonjour.
Alors, cette semaine, il sera question de l'exhortation Querida Amazonia, des blocus autochtones et du séjour africain de Justin Trudeau. Mais tout d'abord, regardons la question de l'adoption sous le bâillon du projet de loi 40. Ce projet de loi qui modifie, et c'est son titre exact, la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, c'est le projet de loi là, qui, dans les faits, abolit les commissions scolaires, a été adopté sous bâillon le samedi 8 février aux petites heures du matin. Il était 3h21, donc pas 15h21, mais bien 3h21 du matin lorsque le vote final a eu lieu. Parmi les députés qui étaient toujours présents et qui ne dormaient pas, 60 ont voté pour et 35 contre. Il n'y a eu aucune abstention. Il s'agissait, il faut le rappeler, de la quatrième procédure sous bâillon du gouvernement de la Coalition Avenir Québec en 8 mois, après la loi sur la laïcité, après la réforme de l'immigration et enfin après la loi sur la déréglementation des tarifs d'Hydro-Québec. Donc, la quatrième loi qui est adoptée sous le bâillon. C'est donc un projet de loi qui contenait quelque chose comme 300 articles auxquels on a apporté 160 amendements qui a été adopté en quelques heures après avoir été étudié durant plus de 60 heures par une commission parlementaire. Mais l'ensemble des députés n'a eu que quelques heures pour voter ce projet de loi. C'est une procédure assez exceptionnelle, Frédéric Barriot.
Oui, effectivement. Donc, ça nous dit quand même quelque chose. Donc, sur le style de démocratie, quand même, qu'entend pratiquer et pratique par ailleurs depuis le début, donc, la Coalition Avenir Québec. Faut quand même le dire, c'est plusieurs fois le recours au bâillon. Ça nous dit quelque chose aussi sur leur vision, finalement, des institutions et du rôle des institutions. Donc, de plus en plus, j'ai l'impression que la vision, en fait, qui est mise en place, bon, on sait que c'est un parti de gens d'affaires, et il faudrait finalement que le gouvernement fonctionne comme un conseil d'administration, hein, qui serait essentiellement là pour faire du rubber stamping. Le problème, bien entendu, c'est ce bon vieux partage des pouvoirs hein, dont parlait Montesquieu. Hein? Donc, hein, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et c'est tout ça, finalement, qui semble être remis en question par le style donc, de gouvernance donc, de la Coalition Avenir Québec. On l'a vu, par exemple, avec la loi 21, hein, le recours à non seulement le bâillon, la clause dérogatoire, le refus de consulter, finalement. Donc, tous les contre-pouvoirs, finalement, sont vus comme un obstacle, finalement, à l'agenda politique. Là. On le voit avec ce recours au bâillon. Prenons vraiment un pas de côté, hein, cette saga tout à fait saugrenue du caribou forestier où le ministre Dupuis, hein, le ministre Dupuis refuse de consulter les scientifiques de son propre ministère. Le ministre Jolin Barrette qui ne consulte pas les juristes de son propre ministère. Donc, il y a quelque chose... Bon, parlons du troisième lien, tant qu'à y être, finalement. Donc, je suis en train de faire le procès du gouvernement, mais ça nous dit quand même quelque chose, donc du rôle de ces contre-pouvoirs. Ici, l'Assemblée élue, qui sont là, bien entendu, pour non pas se faire enfoncer dans la gorge 170 amendements, mais bien entendu, en débattre et en discuter, parce que les gens qui sont dans l'autre banquette peuvent nous aider, finalement, à être attentifs aux angles morts qui sont dans notre propre loi.
C'est le but d'un Parlement, en fait.
Et voilà. Et disons-le d'emblée aussi, il s'agit ici d'éliminer un autre contre-pouvoir, hein, donc un autre palier de gouvernement, si imparfait soit-il, mais d'un gouvernement élu en ce moment par moins de 25 % des Québécois et avec un taux d'abstention comme on en a rarement vu, on est assez mal placé pour se prétendre plébiscité en Napoléon Bonaparte finalement pour imposer un agenda comme celui-là.
Alors, quand on entend François Legault expliquer le baillon, il répète, écoutez, on a eu plus de 60 heures à en discuter, on l'a vu d'un fond en comble, on a fait tous les amendements possibles, l'opposition a eu l'occasion d'amener tous les problèmes. Alors, c'est normal que les députés ne font qu'aller approuver ou désapprouver tout simplement le document. L'argument a un certain sens. On peut imaginer que pour l'ensemble de l'opposition, on pourrait passer des heures et des heures à discuter d'un projet de loi. Allez-y, Marie-Claude Lalonde, c'est pas un projet de loi quand même qui est simple. On parle pas d'un petit projet de loi de 5-6 pages. Là.
Non, exactement. C'est vrai, ils ont pu en discuter pendant 60 heures. On pourrait discuter pendant 5 ans de toute loi. C'est toujours complexe, ça a toujours beaucoup d'implications sur d'autres lois, sur les citoyens et tout ça. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est les amendements. Il y a eu tellement d'amendements qu'il aurait pratiquement fallu recommencer. 300 articles et 160 amendements, ça vous montre tout de suite un déséquilibre. Écoutez, c'est probablement du jamais vu, d'ailleurs, un si grand nombre d'amendements, mais pour moi, le baillon, c'était pas pour dire « on a fini la discussion ». Non, c'était pour dire il n'y aura plus de discussion, nous avons décidé. Et ça, je pense que ça a été bien illustré, la CAQ fonctionne comme ça, et donc pas de surprise à les voir utiliser le baillon à répétition. Par contre, c'est inquiétant, c'est un mode une façon de gouverner qui est très, très inquiétante pour notre démocratie, et on se demande ce qu'ils en font parfois de la démocratie.
Alors, c'est visiblement un modus operandi là, qui est en train de s'instituer. Dès qu'il y a une loi qui est un peu controversée, on peut s'attendre à ce que le gouvernement demande qu'il y ait un baillon et qu'en 24 heures, on vote un projet de loi. C'est inquiétant, effectivement, Suzanne Loisel.
C'est très inquiétant. Je pense que c'est... Bon, on a fait allusion que c'est le quatrième baillon et en peu de temps, faut-il le dire. Hein? C'est assez... Bon, il y avait un article dans le journal qui disait, ben, finalement, tout ce scénario autour de ce projet de loi est une perversion de la démocratie. Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est aussi, je pense que cette loi a été, bon, présentée comme, oui, une réforme scolaire, et très orientée sur le changement des structures dans le monde scolaire. Mais quand on regarde la loi de plus près, j'avoue que j'ai pas... analyser les 312 articles et la centaine d'amendements. Mais quand même, il y a des sujets majeurs qui sont touchés dans cette loi. On ne parle que des structures, on ne parle que des centres de services. Mais pour avoir été dans le monde de l'éducation un certain nombre d'années, ce texte législatif, en fait, torpille la formation du personnel enseignant, la conception des conseils d'établissement, la problématique des services, de leur regroupement, même le choix de l'école, les rapports des enseignants, les rapports des conseils d'établissement, la participation des étudiants, le rôle des directeurs généraux qui deviennent finalement rois et maîtres, et on vient d'éliminer en fait l'autorité qu'ils avaient un peu dans leur pattes. Mais ceci dit, moi, ce qui m'impressionne, c'est, oui, vous avez évoqué les 60 heures, je pense, de commission parlementaire, de commission, etc. Écoutez, c'est rien quand c'est pour repenser la loi de l'instruction publique sans consultation de la société civile. On a quand même des précédents dans l'histoire de l'éducation du Québec, si on pense... parce que je suis moins jeune que mes collègues, mais à la réforme parents, eh bien, écoutez, ça a été plus que 60 heures de débat en commission parlementaire.
Vous avez raison, c'est juste.
Bon, ben l'éducation, c'est un joyau, dans le fond, de notre démocratie. Et la CAQ s'était pété les bretelles en campagne électorale pour dire, oh, la santé, oh, l'éducation, c'est majeur. Sauf que, qui regarde l'éducation, ce sont des gens d'affaires. Ce sont des gens pour qui, qu'est-ce qui importe? C'est l'efficience, c'est le rendement. Mais au niveau des contenus, au niveau de l'idéologie, au niveau de la participation, au niveau du débat démocratique, à la poubelle. Je regrette, mais avec le bâillon, ça a pris le bord de la poubelle de façon dramatique. Et là, c'est les lendemains de la loi 40. C'est une chose d'avoir adopté la loi sur le bâillon, mais c'est une autre chose de gérer cette loi. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les parents? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les enseignants? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les professionnels de l'éducation? Pour les jeunes qui vont vivre? Quand est-ce qu'on a parlé des jeunes? Quand est-ce qu'on a parlé des enfants? Oui, on va se faire du capital politique en disant c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour etc. Mais à mon avis, la façon qu'ils ont fonctionné, avec les objectifs qu'ils avaient, l'enfant n'est pas au cœur de la loi 40. Il va falloir qu'on me le prouve. Et je finirai avec un commentaire. C'est curieux que ce projet de loi, qui est devenu une loi maintenant, vise le secteur public uniquement. Il ne touche pas du tout au secteur privé. Je ne veux pas en faire un débat de l'école privée, l'école publique. On pourrait le faire ailleurs, cette discussion. Mais comment ça se fait qu'il y a tout un pan de notre réseau auquel on croit, auquel semble-t-il qu'on met des moyens, et qui échappe tout à fait à cette nouvelle gouvernance scolaire?
Vous avez raison, en tout cas, de mentionner que c'est un projet de loi qui ne concernait pas que les commissions scolaires. Hein. C'était un projet de loi qui revisitait au complet la loi sur l'instruction publique. La loi sur l'instruction publique, c'est justement tout le système d'éducation. On avait découvert, par exemple, lorsque le projet de loi a été déposé, que par un simple article, on abolissait le comité, par exemple, qui était chargé d'expliquer au ministre ou enfin d'aider le ministre, de conseiller le ministre, par exemple, sur les affaires religieuses. Alors, personne ne l'a vu, mais on a tout simplement biffé cette fonction-là, cette fonction conseil, à l'intérieur du projet de loi. On a aussi biffé un poste comme des personnes qui sont responsables de la vie communautaire et spirituelle. On n'a pas aboli le poste d'emploi, mais on a aboli le titre à l'intérieur même de la loi sur l'instruction publique qui avait été votée, vous vous souvenez, avec toute la question de la déconfessionnalisation des écoles. Alors, mais ce qui est peut-être un peu plus inquiétant dans cette histoire-là, c'est ce qui s'est passé vendredi, donc la veille du bâillon. Cette journée-là, le gouvernement a déposé deux amendements de dernière minute, donc des amendements qui n'ont pas été discutés en commission parlementaire et qui ont causé la surprise, y compris même des députés qui lisaient pour la première fois ces textes-là. Le premier de ces amendements-là, c'est on élimine toute période de transition pour les commissaires élus. Les commissaires ont appris le vendredi qu'ils perdaient leur emploi dès que la loi était adoptée, non pas par les autres organismes qui régissent les lois à l'intérieur, mais bien dès qu'il était adopté par l'Assemblée nationale. Donc, dès le lendemain, samedi matin, les commissions scolaires n'existaient plus et les commissaires avaient tous perdu leur emploi. Et donc, dès lundi matin, les sites web des commissions scolaires avaient un bandeau pour expliquer qu'ils étaient en pleine réorganisation et que le directeur général prenait dorénavant la direction. Le second amendement, lui, était plus costaud. Il comptait 7 pages et il a été présenté dès la veille, et il donne le droit aux nouveaux centres de services scolaires qui vont remplacer les commissions scolaires d'exiger des municipalités la cession d'immeubles, et ce, gratuitement, dans les localités où ces centres de services scolaires vont agir. En soi, c'est peut-être pas une bonne idée, une mauvaise idée, peu importe, mais il reste que le monde municipal n'en avait jamais entendu parler et s'est réveillé samedi matin avec un projet de loi adopté et qui changeait dramatiquement la façon de faire. Sans le vouloir, ou peut-être en le voulant, très bien, mais François Legault venait d'ajouter un grand groupe d'opposants à son projet de loi 40 qui venait d'être adopté. Alors, comment penser à tout ça, ces événements-là? C'est quand même curieux. Vous êtes une juriste, Marie-Claude Lalonde. C'est quand même curieux là, d'amener que les gens qui sont responsables des lois, de la rédaction des lois, amènent des amendements comme ça à la dernière minute, comme si on sortait un lapin de notre chapeau.
Ben c'est ça, la question de savoir est-ce que c'est un amendement qui a été fait dans un processus d'études et de questionnement, ou est-ce que c'est un as qu'on avait gardé dans sa manche pour la dernière minute pour passer ça rapido, et là, je ne sais pas quelle était la tactique de la CAQ, mais en tout cas, ça paraît mal. Disons ça comme ça. Ça paraît mal. Et là, il y a un paquet de personnes qui doivent appliquer la loi en 24 heures, oui. On s'entend, en 24 heures, doivent appliquer la nouvelle loi. Mais écoutez, il va falloir l'étudier, cette loi-là. Il faut que quelqu'un fasse des directives à partir de la loi, de savoir comment on met en place ces nouvelles structures-là. Quelles seront la transition? Vous avez parlé de transition pour les commissaires scolaires. Il n'y en a pas eu. Mais tous les gens des commissions scolaires et même les directions d'école, pour eux, c'est une transition. Et moi, ça m'a ramené un peu à cette histoire anglophone-francophone à Montréal, où les anglophones ont dû remettre une école aux francophones. Je sais pas, là, mais le chaos que ça a provoqué des deux côtés, de réorganisation et tout ça, de stress. Mais là, c'est tout le système. C'est pas deux écoles, là. C'est l'ensemble des écoles. Alors, moi, je pense que c'est un peu de la folie. C'est une façon d'affirmer son pouvoir. Et la CAQ est très, très bonne là-dedans. Et puis, pas de surprise, quoi.
Alors, d'autres ont plutôt vu, dans ce geste précipité, une absence de planification, justement. On se rend compte qu'on a eu un trou à l'intérieur de la loi et que là, ben, on décide de faire ce changement-là. Vous y croyez à ça ou c'est plutôt de l'arrogance, comme dit M. Dutrisac dans Le Devoir?
C'est de l'arrogance.
C'est de l'arrogance. Simple, cher. Oui.
Allez-y, je pense que l'histoire des lois votées par la CAQ depuis X mois révèle une arrogance extraordinaire. Là, on est dans le monde de l'éducation. On était à cette table-ci il y a quelques mois pour parler de la réforme de l'immigration. On est dans les mêmes paramètres. Quel que soit le contenu qu'on discute, c'est la méthode. La méthode, et on en a parlé tantôt, l'absence de démocratie, imposer ses vues, ignorer les différents acteurs qui peuvent donner un avis, même leurs propres collègues, c'est allé quand même assez loin, oui. En tout cas dans la description que vous faites, de dire les deux derniers amendements illustrent d'une façon absolument absurde la façon de gérer. Fi à la consultation, ça n'existe plus en démocratie, vu vision caquiste, ces processus démocratiques. On dit que Legault et sa gang n'aiment pas la consultation, n'aiment pas les commissions parlementaires, ça jase, ça n'aboutit pas. On revient aux paramètres de l'efficience. On est dans un mode de gestion capitaliste où il faut que ça produise les idées des gens, la consultation. Ça n'existe pas. Puis ces deux amendements que vous avez évoqués, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'était déjà énorme comme loi antidémocratique, processus antidémocratique. Et là, en pleine nuit, on arrive et on dit, « Bien, messieurs, vous n'existez plus demain matin. » Bien, pas même demain matin, au moment où la loi est votée, en pleine nuit. Mais c'est vrai pour toute la loi. Alors, je ne sais pas comment on va sortir de ce modèle de gestion caquiste. On est pris avec un gouvernement majoritaire et pour quelques années encore.
Oui.
Alors, on n'en est qu'à la quatrième loi. Préparons et attachons nos tuques. Hein?
Alors, avant que j'impose le baillon sur cette discussion-là, un dernier mot.
En guise de conclusion, hein, vraiment, donc, une pensée, bien entendu, pour ces commissaires scolaires, donc, des gens qui avaient vraiment le bien-être des enfants tatoué sur le cœur. J'ai eu, dans le cadre de mes fonctions d'historien, en fait, eu l'immense privilège de côtoyer Robert Cadot, hein, qui a été commissaire scolaire dans Hochelaga-Maisonneuve. Ah. Donc, un homme d'une grande qualité. J'avais collaborer, en fait, à faire l'histoire des écoles de Hochelaga-Maisonneuve. Donc, dans une logique vraiment de réappropriation communautaire de ce patrimoine, mais aussi donc ce que veut dire, bien entendu, l'école comme levier. Donc, voilà, une pensée pour ceux-ci, mais en même temps aussi donc le côté très politique de la chose. Je trouve que le timing est ô combien intéressant au moment même où la commission scolaire English Montreal se préparait justement à intenter une poursuite à l'endroit du gouvernement, donc autour de la question de la loi 21. Donc, ça donne bien, comme on dit.
Alors, je vous en rappelle que le projet de loi 40 modifiant la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire a été adopté sous le baillon le samedi 8 février aux petites heures du matin. « Bon, alors, de nombreux manifestants autochtones bloquent routes et voies ferrées en solidarité avec les chefs héréditaires de la Première Nation Wet'suwet'en qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal Gas Link en Colombie-Britannique. Cette mobilisation, qui est suivie un peu partout au Canada, a paralysé le service par rail allant du transport de passagers, y compris ici dans la région de Candiac, en Montérégie, à l'acheminement de marchandises essentielles comme le propane, qui est si important, entre autres, pour les cultivateurs. Hier, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a appelé au calme et a demandé un dialogue constructif. Le grand chef Mohawk de Kanisetake, Serge Simon, a dit que la levée des blocus n'équivaudrait pas à une renonciation des revendications autochtones. À la Chambre des communes, hier encore, le premier ministre Trudeau a dit que le gouvernement n'allait pas agir dans la précipitation et répétait que l'usage de la force n'était pas utile. C'est la réponse la plus faible de l'histoire du Canada à une crise nationale, a réagi le chef conservateur par intérim Andrew Scheer. Suzanne Loisel, vous en avez à dire sur ce blocus-là qui prive bon nombre de citoyens aussi de services essentiels.
Oui. Vous avez raison de dire que le blocus affecte la vie des Canadiens, des Canadiennes, des gens de la Colombie-Britannique jusqu'aux Maritimes, etc. Je trouve qu'on met beaucoup l'emphase, les projecteurs sur les blocus, et avec raison. Je pense que c'est majeur comme... Mais je pense qu'on cache ou on ne met pas autant le spotlight en bon français sur les enjeux liés à ces blocus. Et c'est nettement lié à l'entreprise. En fait, c'est la fameuse compagnie Coastal GasLink qui veut construire un gazoduc. Et effectivement, ce gazoduc passerait sur des territoires non cédés. L'enjeu, c'est tout le rapport des entreprises aux nations autochtones. Et c'est un contentieux qui existe ici au Québec, ici au Canada et dans les pays d'Amérique du Sud, etc., où les nations autochtones sont bafouées. On ne reconnaît pas leur droit à l'autodétermination. On ne reconnaît pas qui sont les possesseurs des territoires. Et on a un fonctionnement encore éminemment colonialiste, malgré des déclarations. Je comprends que Trudeau, actuellement, il est coincé entre ses grandes déclarations sur son rapport avec les Autochtones. Il y a eu des efforts les dernières années avec les commissions nationales, les commissions d'enquête, etc. On pourrait relever un certain nombre de gestes positifs, d'événements. Mais ceci dit, quand arrive une crise comme celle-ci, en fait, ça met au grand jour l'aberration de la loi des Indiens qui n'a jamais été... Je vais laisser à Madame la juriste le plaisir de parler de cette loi. Mais comment ça se fait que 100 ans et plus tard, on n'arrive pas à modifier cette loi-là? Parce qu'il y a des intérêts économiques, stratégiques très importants par rapport à ça. Il y a la fameuse déclaration sur les droits des nations autochtones de l'ONU. C'est comme si ça n'existe pas quand on parle de conflits comme ceux-là.
Et qui dit justement que le territoire appartient à ces nations-là,
exact,
lorsqu'il n'a pas été cédé.
Ceci dit, je ne vous dis pas que c'est facile. Et je pense que la situation est complexe parce que, effectivement, il y a des chefs héréditaires d'une nation et il y a les élus des conseils de bande locaux. Et là, je pense qu'il y a un nœud. Et le fait que les chefs héréditaires refusent la construction du gazoduc Coast Link et que les conseils de bande l'ont proposé, il y a un problème à l'interne. Puis je pense que c'est aux Autochtones à régler ce problème-là. C'est pas à nous à dire les chefs héréditaires ont raison ou les chefs de bande, les élus locaux ont raison. Mais je pense que ça met en exergue les droits des peuples autochtones. Ça met en perspective notre relation de nation canadienne aux nations autochtones, quel type de relation on veut développer avec eux. Ça remet en question notre conception du développement économique qui est basée sur la construction de gazoducs, de pipelines, d'industries extractives au détriment de la nature, au détriment des gens qui occupent un territoire. Que c'est mal dit, ils ne l'occupent pas.
C'est
leur territoire. On pourra revenir peut-être dans un deuxième temps, mais ce qui m'impressionne aussi, c'est la mobilisation nationale autour de ça. Le blocus, c'est pas seulement de bloquer, c'est de prendre la parole publiquement sur un enjeu national qui touche des droits bafoué des Autochtones.
Alors, justement, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel on s'est jamais intéressé, d'une certaine manière, depuis les dernières années. Qui connaissait la nation, la Première Nation Wet'suwet'en, il y a encore une semaine? Personne ne s'est intéressé. Et pourtant, ça fait des années qu'ils se battent sur cette question-là et qu'ils veulent protéger leur territoire. En tout cas, les chefs héréditaires n'étaient pas tous d'accord, en tout cas, avec le passage du projet de gazoduc. Mais ce qui me fascine dans ça, et ce qui a peut-être été une surprise pour bon nombre de gens, c'est justement que la communauté autochtone est aussi divisée sur ces projets de loi là, à la grandeur du pays. Et ce qu'on apprend, c'est que le conseil de bande, qui est élu par les membres de la communauté, soutient le projet, alors que les chefs héréditaires de la nation, eux autres, s'y opposent. Enfin, c'est peut-être pas aussi clair que ça, mais d'une certaine manière, là, les deux groupes s'opposent là-dessus. Il y a Éric Cardinal, qui est chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal, qui est un expert en droit et politique autochtone, qui a expliqué sur les ondes de Radio-Canada que les conseils de bande sont élus au suffrage universel et ils ont la légitimité pour représenter l'ensemble des intérêts de la nation. Par contre, les chefs héréditaires sont d'accord pour laisser l'administration de la communauté au conseil de bande, mais ils affirment depuis toujours qu'ils sont eux seuls les détenteurs des titres et des droits ancestraux. Et donc, c'est à eux que revient le droit de négocier des ententes qui touchent les terres ancestrales. Alors, on n'est pas sorti du bois, j'ai l'impression, Marc-Claude Lalonde, dans un cas semblable.
C'est pas une situation facile. J'aimerais pas être à la place de Justin Trudeau parce que vraiment, c'est, je pense qu'on est devant une situation qui peut... On le sait, on l'a déjà vu, hein, ça peut... une petite flamèche et puis il va y avoir un gros conflit. Moi, je suis pas surprise de voir que les Autochtones eux-mêmes sont divisés. Je pense qu'ils sont à l'image du reste de la population. Les Canadiens sont pas tous pour les pipelines ou tous contre. Mais ça illustre effectivement un problème de gouvernance interne, disons. On ne s'entend pas sur le rôle de chacun. Et la question, c'est pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on en est arrivé là? C'est la loi sur les Indiens, dont le titre m'horripile, je vous le dis tout de suite. Là. C'est cette loi-là qui a créé les conseils de bande. Alors, c'est pas les nations autochtones qui ont dit « ça nous prendrait un conseil de bande ». La loi les a créés, leur a donné une certaine légitimité en ignorant une part importante chez les Autochtones, c'est-à-dire la tradition, les aînés et les chefs héréditaires pour, dans certains cas. C'est juste une belle illustration de ce problème de fonctionnement-là. Puis de toute façon, quand on arrive avec les Autochtones, c'est jamais simple. Quand on arrive avec les chemins de fer, c'est jamais simple non plus. Il y a toute une question de savoir qu'est-ce qui est de compétence fédérale ou de compétence provinciale.
Et
les chemins de fer sont de compétence fédérale, mais le transport intra-provincial est de compétence provinciale. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ça dépend où s'en va le train? J'imagine qu'il y a des règles... J'imagine qu'il y a des règles que je ne connais pas, mais ça vous illustre quand même la difficulté de tout ça. Et si une province obtient une injonction, c'est à la province de faire appliquer l'injonction et non pas au gouvernement fédéral. Alors là, on a un peu de tout. On a l'implication des provinces, l'implication du fédéral, et nous aussi, on va peut-être se retrouver avec une question de savoir qui fait quoi et qui a le dernier mot. Donc, ce qui se passe chez les Autochtones, on n'est pas à l'abri de ça non plus.
J'ai l'impression que ça va demander beaucoup de temps pour tout ça, et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas ce temps-là, puisqu'il y a des impératifs économiques qui sont importants. Il faut que le propane puisse se rendre chez les cultivateurs, il faut que les citoyens puissent se rendre à leur travail. J'ai l'impression que M. Trudeau va manquer de temps et pourrait peut-être être tenté par une option un peu plus violente en demandant à la GRC, par exemple, de faire respecter les injonctions qui sont déjà là. C'est votre crainte, Frédéric?
Ben, je pense qu'on vit un moment d'histoire, c'est-à-dire que c'est la première grande crise autochtone depuis les travaux de la Commission de vérité et de réconciliation. Je pense que ça, c'est une page, vraiment un point tournant dans l'histoire canadienne. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les rapports entre la puissance colonialiste que nous continuons d'être et les peuples autochtones vont être appelés à changer à tout jamais. Donc, c'est clair que vraiment, on vient de franchir une ligne. Il y a quelque chose d'extrêmement aussi métaphorique, pour ne pas dire symbolique, vraiment, que ce soit précisément ce chemin de fer dont Marie-Claude vient de parler, donc qu'il soit l'enjeu quand même, là, qu'il soit au cœur finalement de cette mobilisation-là. Rappelons-le, là, hier, en fait, nos chers amis manitobains célébraient la fête de Louis Riel. Il faut se rappeler quand même que le jour où Louis Riel a été pendu, le président du Canadien Pacifique plantait le dernier clou du chemin de fer et pour bien entendu rendre possible ce qu'on appelle le progrès, hein, from coast to coast, pour rendre possible ce projet-là, qui était les gêneurs, hein? Bien entendu, les peuples autochtones, à commencer par les Métis et leur encombrant troupeau de bisons. Donc, il a fallu faire la place finalement pour ce projet. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se dire. Donc, il est assez symboliquement, on dit tout le temps à la blague, hein, le pacte confédéral de 1867 tient par une ceinture de métal,
oui,
qui est ce chemin de fer qui va d'un océan jusqu'à l'autre, et que ce soit précisément à ça qu'à s'attaque finalement. Donc, évidemment que je suis tout à fait solidaire, bien entendu, des impacts économiques, mais je pense qu'ici, il y a quelque chose comme un moment charnière dans l'histoire. Je ne pense pas qu'on va pouvoir refaire ce qui s'est produit à Oka, par exemple. Donc, je pense qu'on a tiré des leçons de tout ça. Et donc, est-ce qu'il va y avoir vraiment des véritables rencontres d'égal à égal et de nation à nation pour commencer et amorcer un processus de décolonisation? Je le souhaite évidemment, parce que c'est la chose à faire.
Un processus de décolonisation qui risque de prendre malheureusement beaucoup de temps. Je vous rappelle que de nombreux manifestants autochtones bloquent routes et voies ferrées en solidarité avec les chefs héréditaires de la Première Nation des Wet'suwet'en qui s'opposent au projet de gazoduc Gaslink en Colombie-Britannique. C'est une situation à suivre, en tout cas certainement dans les prochaines heures et dans les prochains jours.
Il y a aussi des groupes de la société civile qui appuient largement de la Colombie-Britannique jusqu'aux Maritimes. On parle beaucoup des Autochtones qui bloquent, mais ils sont accompagnés, les Autochtones.
Alors, c'est certainement une situation sur laquelle on va revenir bientôt à Foi et Turbulence. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle les gens qui nous accompagnent aujourd'hui pour réfléchir à l'actualité. Marie-Claude Lalonde, d'Aide à l'Église en détresse, Suzanne Lorzel du collectif Échec à la guerre et Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi. Alors, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu en Afrique le jeudi 6 février. Il a participé à une session de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Son but était clair, rencontrer les dirigeants africains afin d'obtenir leur appui pour l'obtention d'un siège au sein du puissant Conseil de sécurité des Nations unies. L'Afrique dispose de 154 des 193 voix au total qui décideront des sièges non permanents du Conseil de sécurité au mois de juin prochain. Le Canada est en lice contre la Norvège et l'Irlande pour deux places à la table pour des mandats de 2 ans. Je vous rappelle aussi que les représentants de la Norvège et de l'Irlande étaient aussi en Afrique au même moment pour rencontrer les nations africaines. Le journal de la presse a indiqué que le premier ministre du Canada a remis une aide de 10 millions de dollars à la Commission africaine sur l'égalité hommes-femmes et sur l'autonomisation des femmes. Après le sommet de l'Union africaine, le premier ministre s'est rendu au Koweït ainsi qu'au Sénégal. Marie-Claude Lalonde, c'est pas gagné, en tout cas pour le gouvernement fédéral, obtenir un poste au Conseil de sécurité des Nations unies.
Non, c'est véritablement pas gagné. Il faut voir. Ça fait des années qu'on n'a pas été là. Le Canada a déjà été un joueur important, disons, sur la scène internationale, sur la scène de l'ONU. Mais le dernier mandat du Canada, c'est 1999-2000.
Voilà.
Alors, ça fait 20 ans de ça qu'on n'a pas été représenté à l'ONU. C'était pas une priorité pour M. Harper à l'heure qu'il était au pouvoir. Et cette longue absence-là est peut-être difficile à pallier. Il y a peut-être plus de travail à faire. Mais on est quand même à 5 mois du vote. Ça peut paraître long, mais c'est très, très court. Et j'ai eu un peu l'impression, avec cette visite africaine, un peu soudaine quelque part. Je sais que c'était planifié, mais tout d'un coup, comme ça, là, on veut être très visible en Afrique. J'ai trouvé que ça avait l'air un peu d'une vente de feu. Que tout d'un coup, on sentait l'urgence de convaincre de la pertinence que le Canada soit à l'ONU. C'est sûr, l'Afrique a un grand poids, mais il ne faut pas oublier que l'Europe aussi a un grand poids et ça pourrait jouer contre le Canada. Alors, on va voir ce qui va se passer et quelles vont être les retombées de toute façon de cette visite en Afrique. Hormis le contexte de l'ONU, quelles seront les retombées de cette visite?
Alors, pourtant, l'Afrique n'est peut-être pas le continent privilégié, en tout cas du Canada, pour les échanges économiques et tout ça, même s'il y a effectivement un bon nombre d'argent. Est-ce qu'on redécouvre pas trop tard les trésors de l'Afrique ces jours-ci?
Moi, je pense que c'est une entreprise tout à fait hypocrite dans le contexte des relations internationales du Canada et par rapport à son aide publique au développement. Depuis 20 ans, l'Afrique, en fait, a baissé vers le plus bas des priorités du gouvernement. Tant de programmes ont été coupés pour avoir été dans le monde de la solidarité internationale pendant des années. Les 20 dernières années sont catastrophiques par rapport aux années qui ont précédé. C'est ça, il faudrait faire l'analyse des budgets pour appuyer ce que je viens de dire. Le Canada aussi se pétait les bretelles avec les missions de paix. On a vu dans les dernières années la courte mission au Mali, puis aussitôt qu'il y a eu un problème, on a levé les pattes, ça n'a pas pris de temps au bout de... De toute façon, ça avait été entendu pour un an. Mais tout ça pour dire que le continent africain, dans la politique étrangère canadienne, a peu de poids. Je veux dire, faut quand même pas se raconter des histoires. Mais ce qui m'impressionne là-dedans, c'est, flirter avec l'Afrique pour avoir des votes pour aller au Conseil de sécurité, et personne ne se pose des questions sur le Conseil de sécurité. Quelle gloire a-t-il d'aller au Conseil de sécurité actuellement? Conseil de sécurité contrôlé par 5 pays, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, etc. Les membres non permanents, ce sont des petits joueurs par rapport aux membres permanents. De toutes parts, on invoque une réforme, non seulement de l'ONU, mais une réforme du Conseil de sécurité qui pervertit les politiques internationales et qui, par rapport au droit international, on a vu ce qui est arrivé dans les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc., où le droit international est mis à mal par le Conseil de sécurité. Puis on invoque absolument, on pense qu'on va aller, faire quoi? Est-ce qu'il y a une intention de réformer le Conseil de sécurité? Est-ce qu'il y a une intention de faire de la politique internationale autrement? Est-ce qu'il y a une intention de mettre en application le droit international avec des politiques concrètes? Rien de ça n'est apparu dans cette mission. Aucun questionnement par rapport au Conseil de sécurité, sauf de dire on veut être au Conseil de sécurité. Bien sûr, on y a déjà été, mais dans un contexte où les relations internationales étaient complètement différentes. C'était avant les événements du 11 septembre, avant la guerre en Irak, avant la guerre en Afghanistan. Le rôle du Canada a été complètement transformé. Alors, je me dis, deux gros questionnements par rapport à ce voyage-là. Notre rapport à l'Afrique, que devient-il dans la politique étrangère? On est encore collé aux années Harper. On n'a pas été capable de s'en dégager encore. Et puis, qu'en est-il de notre réflexion collective et de nos gouvernements par rapport à l'ONU, par rapport surtout au Conseil de sécurité, par rapport à la réforme qui est clamée de toutes parts? Mais silence total.
Alors, un dernier mot là-dessus, Frédéric. C'est pas gagné, en tout cas, pour le Canada.
On peut faire l'hypothèse. On peut aussi faire l'hypothèse que peut-être, en regard de la présence de plus en plus marquée de la Chine, hein, je pense qu'on parle d'échanges de 42 milliards. Oui. Certains parlent même d'un néocolonialisme, en tout cas d'une forme de colonialisme chinois, donc extrêmement marqué. Peut-être eu égard au récent quiproquo entre le Canada et la Chine, il y a peut-être un désir justement d'aller profiter de cette manne-là, d'autant qu'on sait quand même que les minières canadiennes qui sont déjà quand même très 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 impliquées, notamment en Amérique latine, peut-être qu'il y a une reprise ici donc de la stratégie Harper, hein, donc développement international assorti bien entendu de la défense des intérêts des minières canadiennes. C'est une hypothèse que je pose ici, donc mais visiblement au-delà de l'enjeu donc du Conseil de sécurité, peut-être plus largement aussi donc l'ascendant du Canada pendant très longtemps dans la francophonie, peut-être qu'il y a quelque chose comme un désir donc de réaffirmer la place du Canada, mais voilà.
Bon, alors merci en tout cas pour cette réflexion-là. Je vous rappelle que le premier ministre Trudeau s'est rendu en Afrique dès le jeudi 6 février. Il a participé à une session de l'Union africaine, à un sommet de l'Union africaine, enfin le 33e sommet. Son but était clair, rencontrer les dirigeants africains afin d'obtenir leur appui pour l'obtention d'un siège au sein du puissant Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, parlons maintenant de l'exhortation Querida Amazonia, en français Amazonie bien-aimée. C'est le titre de l'exhortation apostolique post-synodale que le pape François a rédigé et rendu public le 12 février 2020, il y a une semaine. Elle fait suite au synode sur l'Amazonie qui s'est tenu du 6 au 27 octobre 2019 et elle fait suite aussi au document final qui a été adopté par les participants à ce synode-là, ce qui s'appelait Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale. Ce texte du pape François était très attendu parce qu'il devait contenir la décision d'ordonner ou non des hommes mariés comme des prêtres, mais aussi des femmes comme diacres en Amazonie, une région très vaste où les catholiques ont rarement accès à l'Eucharistie et où peu de prêtres acceptent d'aller travailler. Le texte de l'exhortation compte 110 articles, c'est un texte dense, et il est structuré en 4 rêves. Le premier chapitre est consacré au rêve social, le second au rêve culturel, le troisième au rêve écologique, et enfin le dernier, plus substantiel, il faut le dire, est consacré au rêve ecclésial. Ben, dans ce rêve ecclésial, le pape est muet sur l'ordination d'hommes mariés et sur l'accession au diaconat pour les femmes. Ça vous a surpris, Suzanne Loisel?
Oh, surpris, choqué, indigné. Vous avez raison de faire allusion aux 4 rêves du pape exprimés dans cette exhortation. Ces rêves sociaux, culturels, écologiques, je trouve qu'ils sont très beaux, effectivement, et ça tient compte de toute la recherche actuellement au niveau de la doctrine sociale, au niveau de la réflexion écologique, les enjeux culturels, etc., qui étaient d'ailleurs déjà bien développés dans Laudato si, l'encyclique d'ailleurs qui s'y réfère largement, faut-il le dire, on sent que c'est son document de référence. Mais moi, ce qui me... Quand je parlais, ça me choque de voir comment c'est si bien articulé, même si on pourrait faire un certain nombre de critiques. Mais je pense qu'au plan social, il y a vraiment une option fondamentale. Il y a vraiment un souci écologique important. Il interpelle les gouvernements, il interpelle la société civile. Moi, là-dessus, je suis absolument à l'aise et j'en suis ravie que ces questions-là se soient posées. Ce qui m'impressionne, c'est le décalage quand on arrive dans le domaine ecclésial, le rêve ecclésial. Là, on rêve pas du tout de la même façon. Et quand je le lis, moi, je fais des cauchemars. Parce que on n'arrive pas à débloquer au plan institutionnel, au plan réflexion théologique, au plan décision du magistère, une refonte des sacrements, plus large que le sacerdoce en passant. Hein. C'est assez impressionnant aussi que tout ce qui a été fait comme réflexion, discussion depuis et l'apparition du document après le synode et les nouveaux chemins là, pour l'évangélisation en Amazonie et l'exhortation apostolique, Les gens mettent les gros flashs encore sur les questions de ministère ordonné, la place des femmes dans l'Église. Et puis, avec raison, mais je trouve qu'on devrait mettre aussi l'emphase sur les autres dimensions. Mais on est dans ce quatrième versant de ces rêves. Moi, je trouve qu'on est dans un cul-de-sac ecclésiologique. On n'arrive pas à développer non seulement une réflexion théologique cohérente, différente, autre. On est paralysé avec la conception du ministère ordonné qui est la propriété des hommes et la non-accessibilité des femmes, pas parce que moi je rêve d'être une femme prêtre, pas du tout, mais de repenser le sacerdoce, les ministères, etc. Il y a un blocage institutionnel et je comprends qu'il y avait eu des petites ouvertures. Bon, écoutez, ordonner des hommes mariés, c'est quoi les grands changements là-dedans? C'est pas ça qu'on attend comme changement. C'est de repenser la gouvernance de l'Église. C'est de repenser la proximité avec les communautés de base. Bien sûr, comment il s'appelle, François, il souligne avec force le rôle des femmes en Amazonie, dans les petites communautés oui. éloignées, etc. Oui, mais après, c'est quoi? Une fois que tu as dit ça, là, pourquoi qu'ils ne sont pas assises à la même table? Je pense qu'ils voudraient peut-être changer des choses. Moi, je pense que ça révèle les blocages institutionnels sur les ministères dans l'Église, sur la réflexion théologique, sur le sacerdoce. Et moi, je vais mourir avant de voir une ouverture à ce niveau-là. Et le lobby est conservateur, ultra-conservateur, est extrêmement fort, c'est clair.
Alors, vous avez l'impression que ce lobby-là a gagné dans la rédaction de cette exhortation-là, Frédéric?
J'ai l'impression quand même. C'est ce qui est fâchant ici, c'est qu'on est vraiment confronté aussi à une inculturation à deux vitesses, qu'il y a quand même des beaux développements. Il y avait quand même des beaux développements. Moi, ça m'a rappelé quand même là, ceux qui se souviennent, donc Don Samuel Ruiz, hein, donc l'archevêque du Chiapas à l'époque, hein, donc il avait vraiment développé toute une pastorale. Il était même un précurseur sur la question à la Tierra Madre, donc la Terre-Mère, littéralement un ministère de la Terre-Mère. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement fort. Donc, et par ailleurs, et quand certains disent que ce synode-là, c'était la vengeance de Don Samuel, très rapidement, a vu vraiment que la question, par exemple, du célibat presbytéral, c'est quelque chose qui culturellement ne passe pas dans beaucoup de nations autochtones. Donc, c'est là que vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Suzanne avance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une inculturation aussi qui est à deux vitesses. Donc, Faisons l'hypothèse qu'il s'agissait donc d'un synode à portée plutôt régionale, qui prenait en compte donc les réalités autochtones, dans le sillage aussi de la déclaration extrêmement forte donc du pape François à Santa Cruz en Bolivie, donc où il avait vraiment demandé pardon pour l'attitude de l'Église et vraiment s'était engagé au nom de l'Église catholique à faire donc de la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la grande région donc de la Mésoamérique, mais plus largement. Donc, c'est là où il y a vraiment une déception parce qu'il s'agissait essentiellement donc de reconnaître de fait vraiment ce qui était déjà la réalité, c'est-à-dire que il y avait donc un grand nombre de viri probati, donc d'hommes mariés, de diacres bien entendu, qui faisaient un quasi-ministère. Il leur manquait que l'Eucharistie finalement dans le ministère. Il y avait un grand nombre de femmes qui étaient des diaconesses, sans dire le nom finalement, dans beaucoup de communautés. L'animation de la vie spirituelle passait par ces femmes-là. Donc, il s'eût été, bien entendu, de reconnaître dans les faits et dans le contexte, rappelons-le, là, où les groupes évangéliques, ces mêmes groupes évangéliques qui ont soutenu Bolsonaro, hein, donc, il y avait vraiment un terrain à aller occuper en reconnaissant. Donc, là-dessus, oui, il y a une déception. Il y a une déception qui est majeure et d'autant plus difficile à expliquer qu'au plan ecclésiologique, il faut quand même le dire, là, il y a un nombre croissant. On sait de toute façon que chez les catholiques de rite oriental, il y a déjà dans la maison catholique des prêtres mariés. Et il y a un nombre croissant de ministres anglicans qui deviennent. Donc, Au fond, il s'agissait tout simplement de reconnaître ça. Mais ça nous dit peut-être quelque chose à une réflexion théologique fondamentale à avoir finalement sur notre spiritualité eucharistique. Hein? Rappelons-le, là, avant le début du 20e siècle, la communion fréquente, c'était pas la norme. Hein? On ne communiait que deux fois par année. Donc, ça veut dire finalement que le rôle du prêtre, finalement, est à plat changé.
Bien
là.
Oui.
Donc, ça veut dire quelle place pour la parole, finalement? Quelle est la place de la parole de Dieu dans la vie de nos communautés? Et pourquoi cette espèce d'obligation, finalement, que toute réunion eucharistique, toute assemblée liturgique soit forcément eucharistique.
Bon, en tout cas, on soulève là, tes questions. Drôlement intéressantes. Je ne suis pas convaincu qu'on en a discuté justement lors du synode de cet aspect-là historique. Mais il reste que Marie-Claude Lalonde, c'est que certaines personnes ont réagi en disant, attention, le pape n'a rien renié de ce qui a été voté lors du rapport final, mais il a été silencieux. Mais il n'a rien renié. C'est peut-être pour dire davantage, bien, occupez-vous-en, vous, en pleine Amazonie, changez les règles ou votez de façon synodale de nouvelles règles, mais ne les imposez pas à l'ensemble de l'Église de ce point de vue-là. Ça se défend comme argumentation?
Oui, c'est clair que ça se défend, mais moi, j'ai pas senti, je vais le dire entre guillemets, mais l'envoi en mission. Des gens qui sont en Amazonie. On parle beaucoup de missionnaires et tout ça. Mais si on veut véritablement leur laisser le champ libre à faire avancer les choses et inculturer leur propre Église, ben, il faut leur dire clairement. Pour moi, c'est pas clair dans le document qu'on leur laisse de la latitude. Moi, j'ai été peut-être moins choquée que d'autres en lisant le document, qui par ailleurs comporte de bien belles choses. Suzanne l'a dit, là, il y a des très belles choses là-dedans. Moins choquée parce que mes attentes étaient très, très basses. Je ne m'attendais pas à ce qu'on règle les questions épineuses, finalement. Et donc, on se retrouve devant un document qui est bien beau, mais est-ce que on a réglé les véritables problèmes de l'Amazonie? Ben non. Je pense que ça va prendre du temps parce que tout ce qui est écologique et tout ça, ça ne se change pas en 24 heures. Mais il y a une belle volonté de faire quelque chose, mais sur le plan de l'organisation ecclésiale, c'est sûr que ce n'est pas le document qui va faire avancer les choses.
Alors, on a dit que c'était un texte qui était particulièrement poétique, hein, que c'était une très belle écriture sur laquelle on n'était pas nécessairement habitué parce que François, il va plutôt avec des textes qui sont très pratiques habituellement. Et là, effectivement, il parle davantage de rêves. Il y a le missionnaire autrichien Erwin Krater, qui a été aussi évêque de Zingu, le plus grand diocèse du Brésil de 1981 à 2015. Il a participé au synode, lui, sur l'Amazonie. Mm-hmm. Et il a dit, « Querida Amazonia n'a pas répondu à nos attentes. Nous attendions à ce que le pape aille plus loin et il ne l'a pas fait. Je dirais que nous avons été surpris par le document puisque plus de deux tiers des évêques du synode ont voté en faveur de l'ordination des hommes mariés. » a déclaré Mgr Krater. Il y a ici des dizaines de communautés qui célèbrent l'Eucharistie deux ou trois fois par année seulement. Alors, visiblement, c'est le document qui a pu décevoir, en tout cas, y compris des participants au synode. J'ai l'impression qu'on assiste peut-être à un retour en arrière. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, Marie-Claude?
Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je pense qu'on est en arrière. Bon. Tout simplement parce qu'on arrive même pas à reconnaître la situation actuelle. Toutes les questions qui sont là, Frédéric a mentionné le fait qu'il y ait des hommes mariés déjà dans l'Église catholique. Beaucoup de femmes ont des rôles importants dans l'Église et on n'arrive même pas à reconnaître ça. Moi, je pense qu'avant d'aller plus loin, là, il faut faire un peu d'introspection et je pense pas qu'on est actuellement capable de cette introspection-là. Je pense aussi que François essaie de ménager la chèvre et le chou entre les plus, disons, avant-gardistes et les conservateurs dont le lobby est effectivement assez fort.
Un lobby qui a été impressionnant quelques semaines, justement, avant la publication de Querida Amazonia. Je vous rappelle, et on en a parlé ici à l'émission Foi et Turbulence, le pape émérite Benoît XVI a publié avec le cardinal Robert Sarah un fameux texte là, sur la question du célibat des prêtres, c'était d'une certaine manière un avertissement. Plusieurs, en tout cas, l'ont vu comme un avertissement.
Mais il l'a retiré aussi. Hein? Je veux dire, il y a eu des pressions. Bon, c'était un calcul politique aussi que ça se passe au moment du synode sur l'Amazonie. Moi, je pense qu'il y aurait deux choses importantes, me semble, à dire. D'abord, on parle d'un un synode autour d'une problématique régionale, plus locale, etc. Moi, je pense que l'Amazonie, c'est un enjeu mondial au plan écologique, au plan social, au plan culturel, etc. Donc, ça justifie l'importance, je pense, de ce synode. L'autre chose qui me chicote, moi, c'est que pourquoi le pape a senti la nécessité de faire une exhortation apostolique alors qu'il y avait déjà un document final du synode qui ouvrait plus les portes. L'autre commentaire, et je finirai avec ça, je me disais, en même temps, on ne tient pas compte de la vie à la base. Il y a des célébrations qui se font en Amazonie dans des communautés ecclésiales de base. Il y a des femmes qui exercent un ministère explicite dans des communautés de base et non pas de base. Bon, toute la réflexion est liée finalement à la célébration de l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, c'est je veux bien que c'est un mystère central de la foi chrétienne, mais on a fait de l'inflation autour de l'Eucharistie et on fait encore de l'inflation au niveau de la réflexion théologique quand on aborde des questions ministérielles. Alors, moi, je pense, il y a comme un décalage aussi. Quand on parlait du décalage entre la réflexion sociale, écologique, culturelle et la réflexion intra-ecclésiale, dogmatique, je pense qu'on a le même problème au niveau de la vie concrète.
Alors, c'est là-dessus qu'on va terminer, en tout cas, cette réflexion-là, mais j'invite particulièrement les auditeurs et les auditrices à aller lire Quirida Amazonia. C'est très facile à trouver. C'est un texte quand même qui est assez dense, mais rédigé de façon très poétique, il faut le rappeler. On va le trouver directement dans le site du Vatican, vatican.va. Vous allez le voir dès la première page, vous allez pouvoir le lire. Et il y aura aussi le lien à faire avec le document que les évêques ont adopté à la fin du synode d'octobre 2019. Alors, ça va vous permettre de voir le décalage, peut-être, ou enfin la continuité, pour dirons d'autres, entre les deux documents du Vatican. Alors, merci. Alors, très brièvement, peut-être que nos gens pourraient nous parler d'invitations ou de ressources dont ils veulent nous parler. Marie-Claude Lalonde.
Oui, moi, j'invite les gens le 27 février à 19h30 au couvent des Dominicains sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Il y aura une conférence qui s'appelle « Demain l'Église » et trois auteurs de ce collectif seront là pour nous parler de leurs espérances pour notre Église et dans notre contexte.
Voilà, surveillez « Demain l'Église ». Allez-y.
Demain, c'est la journée de la justice sociale, et dans le sillage de cette journée-là, on organise une soirée relation, donc autour de plein emploi, hein? On nage en pleine prospérité économique, et pourquoi finalement une telle grande pauvreté persiste-t-elle? Donc, voilà, c'est organisé avec le collectif Point Québec sans pauvreté, et on va aussi aborder la question des travailleurs migrants agricoles aussi, donc voilà, à ton du sang sous les mains.
Alors, la soirée relation, à ne pas manquer. Alors, Suzanne Loisel.
À surveiller, la Journée internationale des femmes approche à grands pas le 8 mars. Alors, il y a un certain nombre d'activités qui s'organisent au niveau des différents réseaux de femmes, des centrales syndicales. Alors, à suivre.
Alors, merci beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous. L'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 4 mars 2020. On vous y donne déjà rendez-vous. Mais la semaine prochaine, à Foi et Turbulence, une grande entrevue avec André Descoteaux sur l'écologie, et le pape François, le Dominicain, donnera en mars un cours sur ce thème à l'Institut de pastoral des Dominicains. Merci à nos invités, Marie-Claude Lalonde, Suzanne Loisel et Frédéric Barriot. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.